Il allait dans les forêts les plus terribles, celles qui avaient très mauvaise réputation, qui étaient hantées d'esprits et de démons. Et il se mettait dans les situations les plus vulnérables, donc comme ça, en extérieur par exemple. Et il méditait pour voir s'il y avait moyen de stabiliser l'esprit. Et voilà, et du coup, c'était intéressant parce que j'ai ressenti cet esprit sans concession du Bouddha qui allait jusqu'au bout de sa quête. Et ça m'a donné une certaine stabilité dans ce moment de ma méditation. Ça a infusé ma posture physique et mentale. J'ai senti une certaine stabilité. Alors moi, j'avais un bon toit en plus, alors c'était encore plus simple. Mais ça a amené un état d'esprit et une atmosphère en moi. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable, qui peut nous... si vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que vous voyez que les idées qu'on a, qu'on peut aller chercher, même ça, c'est une idée, c'est des choses que j'ai lues en fait. Et du coup, j'amène une idée à mon esprit qui transforme mon expérience du moment. Et dans ce cas-ci, ça a amené une certaine stabilité, une certaine quiétude. C'est-à-dire, de nouveau, un lâcher de ce qui était là avant. Peut-être j'étais un peu perdu dans certaines réflexions et qui, à ce moment-là, ont été dissoutes par cette nouvelle manière de voir qui s'est imposée d'elle-même. Et là, je pense à une amie que beaucoup d'entre vous connaissent et qui participe normalement, mais qui n'est pas là aujourd'hui, Tala. Tala donc n'est pas là aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de son fils, Shane, qui a 18 ans. Et c'est le jour de la grosse fête. Alors, il y a la famille qui vient de loin avec le père, le grand-père et l'arrière-grand-père de Shane. Et il y a énormément de monde, peut-être 80 personnes. Et elle habite un lieu qui est d'une grande simplicité, qui est pas, elle n'a pas une grande salle très confortable et tout ça. Et donc, là, en ce moment, en fait, cette journée, eh ben, Tala se retrouve avec une fête qu'elle prépare depuis des mois et des mois. Et voilà la météo. Et du coup, là, la question de qu'est-ce qui s'installe, quelles sont les attentes et qu'est-ce qu'on peut lâcher se pose. Et qu'est-ce que ça veut dire lâcher dans ce moment-là? Comment est-ce que c'est possible, dans ce moment-là, de ne pas que Tala n'amène pas dans son expérience trop de j'aurais voulu que ça soit différent. J'aurais voulu, j'ai pas de chance, une sensation de un peu de victime ou de vivre une grande malchance et peut-être même de projeter sur la journée un demi-échec qui, du coup, elle la met dans une sensation qui n'est pas la sensation de fait et qui a un impact sur ce qui se passe. Hein? On connaît tous ça. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible de lâcher tout ce qu'on aurait voulu, de lâcher nos attentes de ce qu'on aurait voulu et d'accepter le non voulu? C'est ça aussi lâcher. Lâcher, c'est aussi laisser être ce qu'on n'aurait pas voulu et qui est là. Lâcher, ça ne veut pas dire laisser partir. Ça veut aussi dire laisser être. Et comment est-ce que dans des moments comme ça, on peut laisser être et démarrer maintenant? Comme si, ok, eh ben maintenant il y a 80 personnes sur mon terrain, on a telle et telle et telle structure, le repas est là, le repas est là. Comment, avec ces ingrédients, est-ce que je peux faire une belle fête? Et si on arrive à passer à cet état d'esprit-là, c'est-à-dire à démarrer exactement maintenant, et pas à démarrer de il y a 6 mois, mais à démarrer maintenant, quels sont mes ingrédients? Et avec ces ingrédients-là, comment est-ce que je peux construire? Alors là, il y a une attitude hyper positive qui ramène quelque chose de très beau, de très sain, et qui va probablement permettre une belle fête. Parce qu'on arrive à lâcher le désir que quelque chose qui est là ne soit pas là. C'est des exemples qui viennent, qui sont beaucoup pris dans le zen. Le zen, ils prennent beaucoup d'exemples avec la cuisine. Et donc, un exemple que je disais à Maître Zen, c'était, vous invitez des amis chez vous, vous avez prévu un bon petit plat, et là, au moment de vous mettre à cuisiner, il y a un des ingrédients qui n'est pas là, un ingrédient majeur de votre bon petit plat que vous avez l'habitude de faire et que vous réjouissiez de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, du coup, on se dit, ah, oh, la soirée est foutue, je ne vais pas pouvoir faire le plat que je voulais faire. Il y a une déception, c'est sûr. Mais cette déception, est-ce qu'on la laisse s'installer en un état d'esprit? Ah, au début, on vit le petit choc de « Oh non, non, c'est pas possible, c'est pas là, c'est pas comme j'aurais voulu. » Donc, il y a un choc. Et puis de là, la suite nous appartient. Est-ce qu'on est capable de passer et de redémarrer avec les choses telles qu'elles sont? Ou est-ce qu'au contraire, on laisse s'installer un état d'esprit de frustration et une sensation d'échec? Donc, est-ce que de là, on peut se dire « Ok, cet ingrédient n'est pas là. » Qu'est-ce que j'ai dans mes placards? Qu'est-ce que je peux faire de bon avec ce que j'ai? C'est ça l'exemple que je lisais du zen. Et ça, c'est lâcher. Un ami qui habite dans la région, il y a une quinzaine d'années, a eu un gros accident de voiture, lui et sa femme. Ils ont été emboutis par un camion. Et ça a été vraiment un très très gros. Moi j'étais en Inde, j'étais pas là. C'était un très très gros accident. Et donc il a eu un moment d'inconscience quand ça s'est passé. C'était près de chez nous. Hein. Et puis quand il a ouvert les yeux, eh ben il y avait. Ils étaient lui et sa femme. Tous les membres inférieurs étaient embouillis un peu partout. Et peu à peu, il voyait. Il m'a décrit, hein? Il m'a décrit ce qu'il voyait. Alors, je ne vais pas vous le décrire, c'est assez trash. Mais voilà, ils avaient vraiment été écrasés. Et là, ce qu'il m'a décrit, c'est que quand il a ouvert les yeux et qu'il a vu ça, il s'est dit, il a senti quelque chose en lui, presque, il a senti quelque chose de très calme, extrêmement calme, qui s'est dit, ok, eh ben, je vais faire tout ce que je peux pour récupérer tout ce que je peux. Alors qu'il voyait, ça devait être terrible. Et ça, cet état-là, l'a habité pendant plusieurs jours, pleinement, et puis après ça, pendant des mois. Pendant des mois, il lui restait de cette énergie de reconstruction, de redémarrer de là où il en était. Où pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu une seconde de la sensation « c'est foutu ». Il y a directement eu la sensation d'un nouveau départ. Là, à ce moment-là. Et les gens qu'il visitait en étaient très touchés en fait, parce que c'est presque lui qui les rassurait. Et ça, je trouve que cet exemple, il y a quelque chose de très fort, parce que c'est un ami qui est pas fait pas de méditation. Maintenant, il me connaît depuis longtemps, donc ça va, mais sinon, c'est quelque chose qui lui aurait paru plutôt bizarre. Hein? Pas quelqu'un qui a une démarche spirituelle particulière. Et pourtant, il a eu une révélation d'une haute spiritualité. Et là, cet exemple-là et bien d'autres, et je suis sûr que si tous on cherche, on peut en trouver, nous montrent qu'il y a un processus intelligent en nous, qu'il y a quelque chose de très intelligent qui est là, auquel on ne peut pas dire, ah ben tiens, je me relie et j'ai accès comme ça, aussi facilement que ça, mais au besoin, tac, c'est là. Là, il n'avait fait aucune démarche. Sa réponse émotionnelle à cette situation aurait pu rajouter une souffrance extraordinaire là où il y en avait déjà beaucoup trop. Et il a eu une réponse qui ne construisait pas un problème et une souffrance. Une réponse de la plus grande sagesse qu'on puisse avoir. Sans aucune pratique, sans aucune recherche. Parce que déjà, c'était là. Parce que nous, ce qu'on cherche, déjà, c'est là. En situation. On peut s'en remettre à cette intelligence. Ça, c'est la compréhension et la confiance nécessaires pour vraiment pouvoir lâcher. de savoir que en nous, déjà, cette intelligence, elle existe. Et pour moi, la plus belle des preuves, c'est quand mon fils est né. C'est un exemple qui me revient très souvent. Donc c'était une naissance à la maison. J'ai poussé presque aussi fort que ma femme. C'était un moment très très fort, ça a duré très longtemps. Peu de temps après qu'il soit sorti, à un moment, pap, 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 il a trouvé le sein. Comment ? C'est déjà, comment c'est possible ? C'est déjà un savoir, c'est déjà une connaissance, c'est déjà une intelligence, tout est déjà là. C'est de là que part tout l'apprentissage. Le savoir est déjà là. L'intelligence est déjà là. Quand on sait ça, quand on sent ça, quand on n'a plus de doute parce qu'on voit la manifestation de cette intelligence partout dans notre vie, à ce moment-là, on peut plus lâcher, on peut se poser, on peut avoir une spiritualité qui est plus relaxe, qui est moins « je vais chercher quelque chose pour ma sécurité », mais qui est plus posée, qui est plus de s'en remettre à quelque chose qui sait déjà. Quand on a cette confiance, alors on peut lâcher. Très souvent. Pour moi, je vous l'ai dit, de venir donner cette journée, c'était pas facile. C'était pas facile parce que j'avais l'impression de plonger dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Et à chaque fois que j'essayais de voir comment je m'y prends, je partais d'une autre direction. Et j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et même sur le temps de midi, j'ai été me promener un petit peu, j'ai essayé de rassembler mes pensées et ça ne s'est pas super bien passé. C'est-à-dire que j'avais plein de trucs très intéressants, mais du mal à trouver un fil, du mal. Vous voyez, et là, dans ces moments-là, je me rappelle au début quand je commençais d'enseigner, quand j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans, le stress quand je m'asseyais et que je devais parler et que je devais ramener quelque chose de cohérent et la sensation que j'allais être jugé en fonction de ce que j'allais délivrer, si les gens dans certaines retraites les gens avaient payé, du coup il fallait quand même que, et puis l'image de moi, et puis je m'en rappelle. Et maintenant, il peut encore y avoir de ça. Ça dépend où je me trouve, en fait. Ça dépend de ce à quoi je m'identifie. Mais si, par exemple, je change de perspective et que je me dis que... J'ai remarqué suffisamment, en fait, que dans les discours, ce qui se passe souvent, c'est que les choses viennent parce qu'il y a une qualité d'attention. Voilà. Je le disais dans un cercle là, parfois, ça m'arrive d'entendre des choses que je dis et je ne savais pas ça. C'est venu comme une inspiration, ça m'est arrivé en musique aussi, avant je jouais de la musique classique indienne, qui est une musique sur laquelle on a une structure et puis dans la structure on est extrêmement libre. Et j'ai fait des tournées avec un sitariste norvégien et on pratiquait beaucoup dans notre chambre. Et on pratiquait, on essayait des choses, il y avait des moments, c'est beau la musique, hein, quand il y a des moments d'harmonie à deux musiciens ou trois musiciens, c'est très fort. Mais quand on était sur scène, il venait des choses, moi je jouais des tablas, il venait des choses, parfois dans mes tablas, que j'avais jamais entendues. Ou on faisait un truc, et tac, on faisait une pause, on n'avait pas du tout prévu, et hop, ça repartait. Et ça vient de la magie, tout seul dans notre chambre, ça venait pas. Comme ça. Ça venait de la totalité de l'attention. Et du coup, maintenant, quand je viens pour donner un discours, parfois, comme là, quand je me suis assis, je ne savais pas encore vers où ça allait partir. Je connais le thème, j'ai des idées que j'aimerais bien réussir à mettre ensemble, quelque chose que j'aimerais bien amener, mais je m'en remets aussi à ce processus intelligent qui est l'attention commune qu'il y a dans cette pièce. Et c'est ça qui va laisser exprimer quelque chose. Je change de point de vue, vous voyez. Là, je ne suis plus à moi qui dois délivrer un produit à vous. Je suis à un processus de la vie qui va se faire et dans lequel j'essaye de laisser la place. J'ai changé de point de vue. J'ai changé d'identification. Je ne suis plus identifié autant à mon rôle. Et c'est beaucoup plus relax. Et ça lâche. Et ça lâche, et du coup que ça lâche, ça permet. Et ça permet aussi que ça se passe bien, j'espère. Mais pour ça, il faut faire confiance en musique classique et indienne. Pour pouvoir improviser, il faut une grande confiance. Il y a le sitariste, par exemple, les mélodistes, ils ont toujours un système. Donc le sitar, c'est une espèce de grand instrument comme ça à quatre cordes, et puis il y a une main qui coulisse sur principalement deux cordes. Mais souvent, ce qu'ils font, les sitaristes, ben, ils jouent sur une corde, ils font le petit ting 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 ting. Si vous écoutez, hein, vous verrez souvent, il y a ce moment-là, ting ting. Et en fait, il attend l'improvisation. Et mon petit ting ting. Hop, et ça repart. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit le gars, il est là, il sait qu'il doit faire un phrasé, et il se dit, qu'est-ce que je ferais bien maintenant? Et là, il va jouer à partir de la mémoire, de ce qu'il a déjà répété. Il cherche quelque chose qu'il connaît. Ou alors, il a suffisamment confiance, il lâche et il attend. Et là, parfois, il y a quelque chose qui vient. Et là, tout le monde le sent. Parce que là, c'est hyper touchant. Il y a quelque chose qui se passe, et il y a une beauté qui émerge à travers lui, dans ce qu'il exprime, à travers sa voix, à travers son centour, à travers son sitar. Il y a une beauté qui se produit et qui touche tout le public. Là, les Indiens qui sont très réceptifs à ça, souvent après le phrase, ils vont se lever, ils vont faire Hare Hare Mahadev. Les dieux se sont exprimés à travers le musicien. Il a laissé la place. Il n'était pas là à se dire qu'est-ce que les gens pensent de moi. Parfois, il y a des collègues à lui, des grands musiciens connus juste en face. C'est pas facile de lâcher l'image. Mais s'il arrive à lâcher, alors quelque chose d'autre peut venir. J'ai vu un jour un concert de Bhimsen Joshi. Qui est décédé maintenant, qui était un des plus grands chanteurs en Inde. Et il était très vieux, je ne sais pas quel âge, mais il était très vieux. Donc du coup, on le portait pour arriver sur scène, il ne pouvait plus marcher. Et d'habitude, ils sont assis comme ça, la scène, c'est un peu comme une table très grande avec tous les musiciens. Mais là, on avait fait un U avec les tables, et il y avait son fils, il y avait 4-5 musiciens, et puis il y avait lui qui était sur une chaise, il ne pouvait plus s'asseoir comme ça, avec un micro devant lui, et il était un peu légume en fait. Et là, il portait, il était comme ça. Ça lui aimait, même pas, c'était un de ses derniers concerts, elle n'a même pas salué le public, ni rien. Et puis les musiciens étaient autour, et c'est son fils qui a fait 80% du concert, où il chantait. Mais lui, il avait un micro devant lui, il était comme ça. Et de temps en temps, il y a un truc qui... Il partait. Oh là 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 là. Oh, c'était, mais... Mais voilà, c'est lâcher pour faire place à autre chose. Lâcher, encore lâcher, lâcher toujours. Pour ça, pour nous, pour pouvoir lâcher, à chaque fois, il faudra de la confiance. Alors, des conseils du Bouddha par rapport à la prolifération mentale. Donc, quand ça tourne, le petit vélo tourne en rond dans la tête. Et souvent, c'est en lien avec des identifications à quelque chose d'assez superficiel de nous-mêmes. Notre image, par exemple, a été mise en danger par un voisin ou quelqu'un qui a dit une parole un petit peu compliquée, ou c'est notre critique intérieure qui est très active ou quelque chose comme ça. Alors, un des conseils du Bouddha, c'est de revenir à la pleine conscience, de dégager notre attention qui est pour le moment prise dans un tourbillon de pensées, de la dégager, et ça fait partie de notre pratique, pour la ramener à quelque chose qui se passe ici et maintenant. On a utilisé la respiration, mais n'importe quel objet de perception, en fait, n'importe quel objet de perception, nous dégage de la pensée et nous ramène dans le ici et maintenant, hors de cette turbulence. C'est absolument, absolument essentiel à pratiquer. Ça veut dire de nouveau lâcher. Ça veut dire de nouveau lâcher l'histoire, ça veut dire lâcher l'identité, ça veut dire lâcher l'image et revenir à quelque chose, parce que dans le ici maintenant, il y a beaucoup moins de construction à propos de moi-même, dans ma respiration, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était un peu dans les instructions de la méditation guidée aussi. C'est revenir finalement, c'est lâcher pour revenir à la conscience elle-même, Au départ, c'est la respiration, mais au fur et à mesure de notre pratique, c'est plus vraiment la respiration qui est l'objet. Comme je le disais, c'est la conscience elle-même. On revient à sentir la présence, la conscience. Mais le Bouddha, il a proposé d'autres approches pour permettre de lâcher, pour apprendre à lâcher. Et notamment, il y en a beaucoup d'autres en fait quand on lit les textes. Notamment, ce qu'on appelle les trois caractéristiques de la vie. J'aime pas trop en fait comment c'est appelé, mais bon. La première, c'est l'impermanence. Donc, il y a une bonne présentation bien consistante de ce qu'est l'impermanence, qui est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, mais on comprend quand même plus ou moins ce que ça veut dire, et beaucoup d'entre vous ont déjà étudié le sujet. C'est le fait que rien ne dure. Hein, l'impermanence veut dire que rien ne dure. C'est-à-dire que en méditation, on peut se rendre compte de la permanence. Il y a quelque chose d'assez étonnant pour moi au niveau de la permanence, c'est que c'est une évidence même, et en même temps, on vit comme si les choses étaient assez permanentes. Alors qu'en fait, quoi que ce soit qui soit génial ou problématique, de toute façon, ça va s'arrêter. Mais on saisit comme si ça allait durer. Donc le Bouddha nous conseille d'une part d'observer, de réfléchir et de remarquer la permanence. Par exemple, en méditation, de voir, là, on va méditer avec l'intention de voir que tout change. Donc, notre recherche, ce qu'on observe, c'est, par exemple, dans le mouvement de la respiration, ben c'est très clair, c'est un changement continuel. Il n'y a pas un endroit de la respiration qui est permanent. Il y a aussi des pauses. Si on regarde bien, je ne sais pas certains d'entre vous, si vous regardez vraiment bien la respiration, il y a des moments après l'expire où il y a une petite pause avant l'inspire. Là, il n'y a plus la respiration, il y a une pause. Bref, si on regarde les sensations physiques dans la main, ben on peut remarquer que les sensations sont tout le temps en transformation, tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Il n'y a pas une sensation au moment qui s'arrête et qui est la sensation de la main. On va voir que ben, on démarre la méditation, on est dans un certain état d'esprit. 3 secondes après, on n'est déjà plus dans le même état d'esprit. Quelque chose a changé. Un moment, on est perdu dans nos pensées. Le moment d'après, il y a une douleur dans le dos qui nous a rappelé là-bas. Ah, il y a un chien qui aboie. Hop, on revient à la respiration. On se rappelle, hop, on est parti. Ça change, ça change, ça change. Rien ne dure. Rien ne dure. Et on apprend à voir ça. Et à le rendre conscient, à le rendre réel pour nous, parce que pour le moment on le sait, mais on ne le voit pas vraiment. On ne porte pas notre attention pour le réaliser pleinement. Donc là, le Bouddha, il nous dit, ben voilà, moi ce que je vous conseille, c'est regarder un petit peu. Rien ne dure, les gars. Rien. Alors pourquoi saisir? Ça va pas durer. Il n'y a rien à saisir dans toute l'histoire là. Ça ne peut pas durer. Et de manière à nous permettre de lâcher cette saisie continuelle, cette tendance à saisir, c'est-à-dire saisir ce qui nous plaît pour que ça dure, et vouloir que ce qui ne nous plaise pas ne soit plus là, ce qui est aussi une saisie, hein, vouloir que les choses changent, eh bien, de toute façon, ça ne va pas durer. Ce n'est pas la peine d'y mettre tant d'efforts et tant d'émotions autour de cette histoire, ça ne va pas durer. Et donc, il nous conseille de réaliser la permanence, mais aussi après, et c'est là, je trouve, que ça devient très intéressant, il nous conseille de voir, c'est toujours difficile de l'exprimer ça, mais il nous conseille de voir toute chose comme étant impermanente. C'est pas simplement de voir l'impermanence dans toute chose, mais c'est après ça, quand on aborde quelque chose, de dire ah c'est impermanent. Donc ça devient un outil qui va nous permettre de lâcher. Par exemple, je suis en méditation et il y a une douleur. Quelle est ma réaction? Ça peut être cette douleur. Il peut y avoir une sensation que oh non, c'est pas possible, c'est encore cette douleur. En plus, elle est déjà venue. Je peux pas vraiment méditer avec cette douleur, pourvu qu'elle s'en aille. Il va y avoir une réponse, une envie qu'elle parte, cette douleur. D'accord? Et là, on peut ramener notre connaissance de la permanence et faire OK. Je sais qu'elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer, cette douleur. Souvent, on a des douleurs en méditation, même elles s'en vont, on ne remarque même pas qu'elles sont parties. Mais donc, c'est pour fragiliser cette attitude de solidifier et de dire cette douleur va rester tout le temps. Et je ne peux pas méditer. C'est la regarder en sachant qu'elle va partir. C'est tout bête, hein? On fait ça depuis tout petit, quand on a faim et que nos parents nous disaient on va bientôt manger. Ou quand on s'est fait mal et qu'on disait ça va passer. Hein, c'est déjà une manière de mettre en perspective, de manière à rendre plus supportable, par exemple. Alors, de nouveau, contradiction, parce qu'on peut dire aussi à un enfant, quand il s'est fait mal, c'est aussi important de lui dire, où est-ce que tu le sens? Qu'est-ce que tu sens? Et pas juste dire, ça va passer. Vous voyez, les deux sont importants. Prendre soin des deux mondes, de nouveau. Mais de lui faire rendre compte, ça va passer, va l'aider en fait à lâcher cet envahissement qui est pour l'enfant quand il s'est fait mal, parce que pour lui, n'ayant pas encore la prise qu'on a sur le temps et la compréhension du temps, pour lui, la douleur, c'est comme si c'est tout le temps. C'est ça envahit tout et c'est pour tout le temps. C'est pas ce qu'il se dit, mais c'est ce qu'il vit. Et du coup, de lui expliquer que ça va passer, tout ça, déjà, ça va mieux. Même nous, si on a faim, quand on sait qu'on va manger, c'est plus facile. Juste, et donc le Bouddha ici nous conseille de voir les choses plaisantes comme étant impermanentes, de manière à ce qu'on les vive pleinement, parce qu'elles ne vont pas durer, et voir les choses déplaisantes comme étant impermanentes, parce que ça nous permet tout simplement de ne pas devenir fou et de ne pas nous agiter dans tous les sens, ça va passer. Et ça, en méditation, c'est hyper utile. Donc j'ai dit déjà, on peut le pratiquer en méditation, la réalisation de la permanence, mais aussi on peut l'utiliser, comme je viens de le dire, avec une douleur. Ou moi, il y a un exercice que j'adore, et j'y arrive loin d'y arriver souvent, mais c'est la mouche. Hein, la mouche, là, ça c'est... Si à un moment, vous avez la chance d'avoir une mouche qui se pose sur la joue pendant votre méditation, ça vaut la peine d'essayer de voir si... Vous pouvez déjà, le premier truc, moi ce que je fais, le premier truc, quand je l'entends d'abord, je l'entends qui arrive, déjà je sens à l'intérieur un truc qui se tend. Et c'est là que ça commence la pratique, il faut détendre. Parce que pour lâcher prise, de toute façon, on peut toujours passer par le corps et détendre, parce que le corps se tend quand il y a une saisie. Même pour le morceau de gâteau, le corps se tend. Détendre le corps permet de relaxer l'emprise de cette saisie. Donc en méditation, j'entends la mouche, il y a de fortes possibilités pour qu'elle se pose sur moi, et à ce moment-là, je détends et je me prépare. Voilà. Et parfois, elle arrive, toc, je la sens qui se pose, et là, toute la pratique est de détendre, détendre, détendre et détendre. Lâcher et savoir que ça ne va pas durer. C'est ça. Voir ce moment comme étant un moment qui ne va pas durer. Et juste voir, du coup, si c'est possible pour moi de ne pas m'agiter, d'arriver à une égalité, d'arriver à un non-mouvement. Parce que sinon, au final, ça, ce n'est qu'un symbole de ce qu'on est tout le temps en train de faire, de s'agiter pour transformer les choses, parce que ça, j'aime pas, du coup, j'essaie de le faire partir, et ça, j'aime bien, j'essaie de le faire rester. Et en méditation, c'est ça qui génère beaucoup nos pensées. C'est ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Cette émotion-là, cette pensée-là, ce ressenti-là, ce moment-là, chercher ça, refuser ça. Et là, ben, c'est une espèce d'égalité. Et donc, là, avec la mouche, et j'insiste parce que ça vous arrivera peut-être un jour, et j'espère que vous vous rappellerez de mes conseils, c'est lâcher, détendre le corps et savoir que ça ne va pas durer. Et en faire une pratique. Lâcher. Revenir à la respiration. Y a plein d'autres choses à faire avec la mouche, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Il y a des manières de voir aussi qui peuvent transformer la sensation. Ça, ce qui est aussi, vous contactez. vous constaterez que, en tout cas pour moi, ce qui fonctionne, si je suis dans un moment de ma méditation où j'étais très distrait, pris dans des histoires, pas vraiment à ma méditation, parce qu'il y a d'autres choses et tout ça, et que la mouche arrive, elle va vite repartir. Je vais la chasser. Je vais pas, ça ne va pas être possible. Ça va pas être possible. Mais si je suis à un moment de ma méditation où il y a peu de pensées, où les choses se sont posées, où il y a quelque chose d'assez vaste, où ce moment dont je parlais, où le corps est léger et où il y a cette sensation de calme, alors je vais de la même manière entendre la mouche, je vais de la même manière la sentir arriver et se poser, mais ça va être beaucoup moins difficile à accepter, ça va être beaucoup moins un problème. Là, c'est pratiquement gagné. Et parfois, elle peut rester, et en fait, ce n'est pas du tout dérangeant. Il y a un espace, quand je suis à un endroit de moi-même, ce n'est plus du tout un problème. Tout ça, ce n'est pas pour dire qu'on devrait tout le temps être à cet endroit de nous-mêmes. C'est juste de constater tous ces endroits de nous-mêmes, toutes ces différentes réalités, toutes ces manières d'être. Et ce que je trouve séduisant dans la méditation, c'est la capacité de les visiter tous, tout ce curseur. De ce moment où il n'y a presque plus d'identité, de ce moment où il n'y a presque plus de mouvement, de ce moment où il n'y a presque plus de temps. Jusqu'à ces moments où c'est riche en émotions, il y a des pensées de compréhension où il y a des pensées complètement stupides, quoi qu'il en soit, et les moments de distraction, les moments déplaisants. Tout ça est visité en méditation, mais la lumière est allumée un peu plus. C'est aussi ce qu'on vit dans le quotidien, mais on ne le voit pas de la même manière. Là, la lumière est allumée, il y a plus de conscience. On y voit plus, on y comprend plus, et on devient capable de monter et descendre l'échelle de la visite intérieure. Donc une connaissance de soi aussi au-delà des idées qu'on a de nous-mêmes. Donc le Bouddha propose, pour pouvoir lâcher l'identification à la surface, cet outil de voir que rien ne dure, de voir, de comprendre, il y a besoin d'une compréhension et de l'appliquer, cette compréhension. Il parle, et tout ça c'est dans le discours des fondations de la mindfulness, Satipatthana, les fondations de la pleine conscience. Où la pleine conscience, dans les termes du Bouddha, va être de revenir au moment présent, mais dans le même enseignement, il dit de voir les choses d'une certaine manière aussi, ce qui n'est plus juste être en contact avec les choses telles qu'elles sont. Là, c'est super important, en fait. Il nous propose de voir les choses comme étant impermanentes. C'est amener quelque chose dans le regard. Et dans ce même discours, notamment, il parle, pour entraîner ça, de faire des méditations sur la mort. Et de se voir encore, alors il y a tout un tas de méditations, de se voir encore, de se voir sous terre, de se voir manger par les vers. Alors il y a des méditations qui se font dans des cimetières, des méditations assis sur un corps. Il y a tout ça, en fait, dans le bouddhisme. Pourquoi ? Pour vraiment intégrer la notion de la permanence, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de toute une vie comme au niveau de juste un moment. Dans ces trois caractéristiques, la deuxième c'est dukkha, on l'a déjà beaucoup visité, dukkha, hein, c'est la souffrance. Et là, ce qu'il propose là, ou en tout cas une interprétation de ce qu'il propose là, c'est de voir que, je l'effleurais un peu dans le discours de ce matin, ce qu'on cherche dans notre recherche spirituelle n'est pas trouvable dans tout ce qui a un début, une durée et une fin. Tout ce qui a un début, une durée et une fin fait partie du monde qui ne peut pas pleinement nous satisfaire. Il n'y aura pas une satisfaction totale dans la saisie de quelque chose qui ne dure pas. C'est antinomique, ce n'est pas possible. Donc il y aura toujours une tension, ne serait-ce qu'à savoir que quelque chose, même le plus merveilleux des moments, on sait déjà qu'il va finir. Et ça comporte en lui-même déjà une tension. Donc, ce qu'il nous propose, c'est en méditation, et après dans le quotidien, comme toujours, hein, de voir toute chose qui se présente comme insatisfaisante, dans l'optique qu'elle ne peut pas satisfaire la soif de profondeur et de spiritualité, et de libération et d'éveil qui nous amène à pratiquer le chemin spirituel. Ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut chercher. Ce n'est pas là qu'on va trouver la satisfaction qu'on cherche pour notre spiritualité. Donc, en méditation, on voit tout phénomène, même la plus belle des pensées, même, par exemple, imaginons qu'il y ait une pensée à propos d'une dispute qu'on ait eue avec un ami, et du coup, il y a des pensées sur comment, quelle attitude pour résoudre cette situation, quelle approche est-ce qu'on pourrait avoir et tout ça. Pourquoi pas ? La méditation peut tout à fait servir à ça, mais là, non. Là, ce qu'il nous propose, c'est de lâcher prise sur cette histoire en voyant que ce n'est pas, même dans la résolution de ce conflit, ce n'est pas là qu'on va trouver la satisfaction spirituelle qu'on cherche. La résolution de ce conflit est très importante, mais ce n'est pas dans ce monde-là qu'on cherche la satisfaction qu'on cherche, la satisfaction ultime, l'éveil. Ce qui veut dire que, de nouveau, ces deux mondes, oui, il est important de trouver l'attitude la plus juste dans cette situation, et en même temps, il ne faut pas se laisser croire que c'est parce que cette situation va se solutionner que du coup, ce qu'on cherche de plus ultime va être présent. Jamais. Jamais. Ce n'est pas en transformant les conditions que nous allons trouver ce que nous cherchons. En d'autres termes. Ce qui nous amène à voir toute chose de manière égale. Ce qui se présente et n'a pas d'intérêt, ne nous intéresse pas dans cette approche. J'insisterai toujours parce que je sais que ça peut refermer tout de suite. Parce qu'il y a cette notion de porter intérêt à tout ce qui se présente, et c'est magnifique. Mais là, c'est porter intérêt à rien de ce qui ne se présente. Rien. De savoir que ce qu'on cherche va venir, ce qu'on cherche au niveau ultime, va venir du fait de ne plus attraper et saisir ce qui nous intéresse. La résolution d'un problème, une meilleure identité, la fin de la critique intérieure, une nouvelle voiture. Non, ce n'est pas là-dedans que ça va se trouver. Ce qu'on cherche, ce qui nous pousse à passer des centaines et des milliers d'heures assis en silence plutôt que d'aller à la plage ou de prendre des vacances et de faire des retraites plutôt que de prendre des vacances à la montagne, ce qui nous pousse, cette force intérieure, cette intelligence intérieure qui nous amène à une recherche autant en profondeur, ce qu'elle cherche n'est pas trouvable dans quelque chose qui a un début, une durée et une fin. Donc tout ce qui est impermanent ne comporte pas la satisfaction spirituelle recherchée. Je dis tout le temps la même chose, j'essaie juste des angles différents pour qu'il y ait plus de compréhension. C'est un endroit qui n'est pas facile du tout. Donc c'est une autre manière de voir. La troisième manière de voir, je les présente assez synthétiquement parce que c'est pas. Voilà, on ne va pas passer trop de temps dans ces retraites-ci sur Dukkha et Anicca. La troisième, c'est Anatta, c'est le non-soi. Et ça, je le laisse pour. Ça va venir se mélanger dans ce gros sac, on parlait d'un gros sac. Ça vient dans ce gros sac aussi du lâcher-prise. Le non-soi est une pratique de lâcher-prise. Donc ce que je trouve important à remarquer ici, c'est que on utilise des compréhensions pour lâcher le mental, pour lâcher la saisie, pour lâcher l'identification. On utilise des compréhensions. De la même manière que quand on dit au petit enfant « ça va passer quand il s'est fait mal », c'est une compréhension. Et cette compréhension vient lui permettre d'avoir une relation différente avec le ressenti physique, avec la sensation. De la même manière, quand je dis, si je viens m'asseoir au début du discours en me sentant Denis enseignant de méditation qui joue sa carrière sur la qualité de son discours, ou si je me sens comme étant la vie qui parle à la vie, parce que je peux prendre cette compréhension. Je peux me ressentir et m'identifier comme étant rien d'autre qu'un pur produit de la vie, vous aussi, et du coup, en fait, c'est la vie qui parle et qui écoute pour le moment. Indéniable, c'est juste aussi. Ça change l'identification. Si je me sens comme étant la vie qui parle à la vie, à ce moment-là, il n'y a plus la pression de, quand je me sens Denis enseignant qui joue sa carrière, à venir s'asseoir et donner un discours. C'est des concepts qui amènent à des identifications, à des endroits différents. Un autre exemple de ça. Donc là, ce que j'essaie de mettre en lumière, c'est comment, en fait, et c'est ce que Daniela disait dans son retour tout à l'heure, comment on remplace une idée par une autre, parce qu'une nouvelle idée va nous permettre de plus lâcher prise. Et notamment, c'est aussi, on est là dans le domaine, pour ceux qui ont suivi depuis le début, du sentier octuple des nobles, et c'est la noble compréhension. En fait, c'est la compréhension qui ne crée pas de souffrance. C'est de ça qu'on parle pour le moment. C'est d'amener à une situation, une compréhension qui ne mène pas de souffrance, qui n'amène pas de souffrance. Un exemple que j'avais pris, rappelez-vous, c'était en Inde, j'étais assis sur un rocher, pour ceux qui étaient là, je redonne suffisamment d'informations pour ceux qui n'étaient pas là. J'étais assis sur un rocher, j'avais un moment béni, comme on en a parfois, où tout était parfait, où très calme à l'intérieur, aux portes du désert, c'était vraiment magnifique. Donc je vivais quelque chose d'assez fort personnellement. Et puis là, arrive une Jeep avec des enfants, des étudiants, avec la musique à fond et tout. Et puis il s'arrête, il y avait juste un chai shop. C'était un endroit où il y avait juste un chai shop et quelques temples. Et je sens que ça se crispe en moi. J'ai pas envie que ce moment change. J'ai pas envie que ces enfants me voient parce qu'ils vont me poser toujours les mêmes questions que ce que tous les Indiens posent quand ils voient un blanc. Et j'ai pas envie de changer d'atmosphère. Voilà. Et je sens quelque chose qui se referme un petit peu. Ils s'égayent dans des rochers. C'est des rochers tout ronds les uns sur les autres. Ils s'égayent un peu dans les rochers. À un moment, il y en a un qui me voit. Et dedans, je sens que ça fait parce qu'il fait là. Hop, et ils arrivent tous. Et là, je sens cette tension qui monte, et puis dedans, il y a quelque chose qui dit, et pourquoi pas les accueillir, après tout, c'est la vie qui vient rendre visite à la vie. Hein? Et hop, ça lâche. Et hop, ça lâche, et du coup, je les accueille toujours aussi calmement, mais sans résistance. Les résistances ont été lâchées parce que le concept a changé, parce que la manière de voir a changé, la résistance a disparu. Et c'est ça que le Bouddha, je pense, nous amène avec différents prismes par lesquels voir la réalité, de manière à ce que la réalité apparaisse d'une manière constructive et sans tension. Un autre exemple est quand, il y a quelques années d'ici, je ne sais pas d'où ça vient, ça, j'ai eu envie de proposer de la méditation dans les écoles et j'ai commencé à prendre cette direction-là avec quelques formations et tout ça. Et puis à un moment, j'étais pas très relax avec ça. Il y avait plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que déjà, c'est compliqué. Je suis assez à l'aise maintenant dans un groupe d'adultes et c'est beaucoup plus difficile avec des enfants en classe. En plus, ils n'ont pas tous choisi d'être là. Vous avez tous choisi d'être là, mais les enfants dans une classe, ils n'ont pas forcément choisi d'être là. Et puis bon, voilà la turbulence. Et puis c'est aussi, à chaque âge, c'est très différent. Donc ça me demandait d'apprendre énormément de choses. Mais aussi, quand j'y regardais plus, il y avait des résistances parce que il y avait des peurs par rapport à la finance, où j'avais peur de ne pas... Voilà, c'est pas... toujours quand même évident de vivre sa vie sur donation. Et si en plus je vais dans les écoles où c'est encore pire que sur donation, je ne suis pas sûr. On connaît, c'est tous l'éducation nationale. Et donc, ce n'est pas sûr que ça va pouvoir fonctionner au niveau de notre vie familiale et tout ça. Donc, il y avait une peur. Et il y avait aussi, au niveau de mon ego, il y a quelque chose. Je sentais qu'il y avait une résistance au niveau de l'ego où le fait d'être parmi des adultes et d'enseigner à des adultes, ça nourrissait quelque chose de mon ego et il y avait la peur que ça ne nourrisse pas ça avec les enfants. Voilà, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ce jeu. Et du coup, ça faisait beaucoup de choses quand même. J'avais beaucoup de choses à apprendre, beaucoup. Voilà, et puis cet ego qui était mis au défi, et puis la finance, enfin voilà, ça faisait beaucoup. Et à un moment m'est venue cette pensée, et depuis, en fait, elle me vient souvent, c'est pour qui est-ce que tu travailles? Pour qui est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles pour toi ou est-ce que tu travailles pour la vie? C'est des grands mots, hein, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Chacun remplit les mots comme il veut. Pour qui est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles pour toi ou est-ce que tu travailles pour le dharma? Ça aussi, ça veut dire quelque chose pour moi. Au service de qui tu es en ce moment? Pas une voix jugeante, hein, juste une belle question à se poser. Et souvent, je me la pose maintenant. Pour qui est-ce que je travaille en ce moment? Et souvent, il y a du mix. Je ne travaille pas que pour le dharma, je ne travaille pas que pour moi. Souvent, dans mon rôle, là je parle de mon rôle d'enseignant, il y a un mix entre le dharma, l'envie de transmettre, de soutenir, l'envie de nourrir la vie est bien là, bien présente, et j'essaye de toujours me relier et m'aligner là-dessus. Et puis il y a les jeux d'ego qui sont là, et il y a ce combat toujours. Et du coup, quand cette question-là s'est posée, la réponse était claire. J'ai commencé à enseigner la méditation dans les écoles. C'était évident. Ça a tout clarifié, en fait. Et c'est un changement de perspective. Je suis passé de moi, Denis, qui a une idée d'enseigner dans les écoles, à quel est cet appel? Et comment est-ce que j'y réponds? Pour qui est-ce que je travaille? J'ai changé de concept, j'ai changé de niveau. Le concept amène à différents niveaux d'expérience, à différents niveaux de moi-même. Un petit texte, quelques phrases du troisième patriarche zen, Senzan. La voie suprême n'est pas difficile si seulement vous ne faites pas de choix. C'est fort quand même de dire un truc pareil. Non mais je veux dire, ça donne à réfléchir quand même. La voie suprême n'est pas difficile si seulement vous ne faites pas de choix. Quand l'amour et la haine sont tous deux absents, tout devient clair et sans déguisement. Faites la plus petite distinction entre les phénomènes. Pour les bouddhistes, les phénomènes, c'est tout ce qui est perceptible. Le corps, une sensation physique est un phénomène, un son est un phénomène, une pensée est un phénomène, une émotion est un phénomène. Le phénomène, c'est quelque chose qui se produit dans le moment et qui est perçu. Tout ce qui est perçu, quand on est cette conscience qui perçoit, tout ce qui est perçu est un phénomène. Faites la plus petite distinction entre les phénomènes et vous êtes aussi éloigné de la voie suprême que le ciel l'est de la terre. Je le relis. La voie suprême n'est pas difficile si seulement vous ne faites pas de choix. Là, ça parle par exemple en méditation. On ne choisit plus ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On reste égal, d'une égalité parfaite, quelle que soit l'expérience du moment. Pas de « je voudrais que ça dure », pas de « je voudrais que ça passe ». Quand l'amour et la haine sont tous deux absents, tout devient clair et sans déguisement. Faites la plus petite distinction entre les phénomènes. On parle de l'attachement, là, du coup. Attachement et répulsion. Faites la plus petite distinction entre les phénomènes et vous êtes aussi éloigné de la voie suprême que le ciel l'est de la terre. Impossible de vivre comme ça. Impossible. Gardons toujours bien les deux mondes clairs. Ce n'est pas des instructions sur comment mener une bonne vie sur Terre. Ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Ça parle d'autre chose. Ça parle de comment découvrir un centre qui n'est peut-être pas individuel, qui n'est peut-être pas personnel, dans lequel il n'y a pas une sensation « je », dans lequel il n'y a pas une sensation « moi ». Et cette découverte aura un impact fondamental sur la manière dont on vit sur Terre. Mais essayer de vivre sur Terre comme ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais en méditation, par exemple, pour commencer, parce que c'est là que ça se pratique, en méditation, ça veut dire que quel que soit ce qui se présente, on n'y cherche rien. On le laisse être. On n'essaie pas de le retenir, on n'essaie pas non plus de le faire partir. Quel que soit l'état d'esprit, quelle que soit la chose qui se présente, on lâche parce qu'on n'y voit rien, il n'y a rien à y trouver, il n'y a rien à y chercher. Ce qu'on cherche ne dépend pas de l'absence de cette chose. Il ne faut pas que ça disparaisse de manière à ce que je puisse enfin atteindre cet état. Il ne faut pas non plus que ça reste parce que c'est ça que je cherche. Ce n'est pas dans ça que je peux chercher ce que je cherche vraiment. C'est des instructions pour lâcher prise sur la totalité de ce qui se présente. Ne rien saisir. Là, c'est même plus lâcher prise. Si on suit ces instructions, il n'y a plus de lâcher prise parce qu'on n'a rien saisi. On lâche prise parce qu'on a saisi quelque chose. C'est-à-dire, on est en méditation, il y a une pensée qui démarre, où il y a un désir que quelque chose qui est là reste. Ça, c'est la prise. Et du coup, il faut lâcher ça de manière à pouvoir revenir au vide. Pas essayer de prolonger cet état agréable. Si on s'attache et qu'on essaye de prolonger cet état agréable et qu'on lui met l'étiquette « ça, c'est la méditation la plus profonde », on fige l'histoire et on ne pourra pas aller plus profond. Et en plus, ça ne va pas durer. Et après ça, il va y avoir toutes les frustrations qui découlent. Donc, rien n'est à saisir. Rien n'est à saisir. Et donc, ces instructions-là nous amènent non plus à un lâcher prise, mais à une non-saisie. Les choses peuvent aller et venir. Tout est vu, mais rien n'est saisi. Comme un ami qui est directeur du centre Krishnamurti à Benares, et qui disait que c'était un des exemples du Krishnamurti qui habitait là-bas avant, c'est comme regarder le Gange qui passe. Il y a le Gange qui passe juste là, et dans le Gange, ben, on voit des troncs qui passent, une vache morte, des fleurs, parce que les gens mettent des offrandes. Donc il y a des champs de fleurs qui passent en flottant parfois, ou des champs de bougies le soir, parce qu'ils posent des bougies dans des petites coupelles qui partent en flottant. Et puis après, il y a un cadavre à moitié brûlé, hein, ou dedans. Et on regarde le Gange et on ne se dit pas « Ah, je vais essayer de retenir les fleurs et puis le cadavre, de le faire passer plus vite. » Juste, tout ce qui passe a le droit de passer et on le laisse passer. Ce n'est pas qu'on ne le voit pas, mais on ne cherche rien là-dedans. Ce n'est pas là qu'on cherche la satisfaction qu'on cherche dans notre spiritualité. Quand ça est suffisamment compris, alors, on peut plus vite lâcher prise. Et l'étape suivante, c'est qu'on saisit de moins en moins. Et dans notre quotidien aussi, du coup, on dépend moins des conditions pour trouver une sensation de quiétude. Plus on est dépendant des conditions pour trouver une sensation de quiétude, moins on trouvera de la quiétude. Parce que les conditions sont toujours changeantes et iront toujours, comme le disait le Bouddha dans son premier discours, vers... La vieillesse, la maladie et la mort. Ce sera toujours les conditions physiques de notre physicalité, ça sera toujours ça. On peut vivre un temps de guerre, hein, c'est d'actualité. On peut vivre des époques très très difficiles. Si on dépend des conditions pour trouver une quiétude, à ce moment-là, la liberté est un mythe. Il n'y a pas de liberté. Quand on parle spirituellement de la liberté, on ne parle pas de pouvoir faire ce qu'on veut. Ça, je pense qu'on est tous bien d'accord. Quand on parle spirituellement de liberté, on parle de la capacité d'être heureux quelles que soient les conditions. Extérieures, physiques, intérieures. Et du coup, pour que ça soit possible, c'est la découverte d'un état de nous-mêmes qui n'est pas dépendant. Yes. Qui n'est pas quelque chose qui a un début, une durée et une fin. Est-ce un mythe ou pas? Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il est quelque part dans notre être quelque chose qui n'a pas un début, une durée et une fin? Et le but n'est pas de répondre à cette question, mais de la garder vivante, en fait, cette question. Est-ce que tout ce qu'on est dépend du temps? Le temps est quelque chose de fascinant. Alors, je ne vais surtout pas partir dans cette direction-là, parce que justement, il n'y a pas le temps. Mais la notion de temps et la perception du temps, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Mais est-ce que tout ce qui constitue notre être, y compris cette intelligence qui était déjà dans mon fils à sa naissance et qui lui a permis de trouver le sage, je ne sais pas comment il a fait, est-ce que tout ça est vraiment pris dans cette espèce de courant, ou même en physique, on ne sait pas trop ce que c'est en fait, c'est un concept indéfinissable qu'on appelle le temps. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est absolument indépendant du temps? Est-ce que dans notre expérience, il y a quelque chose qui n'a pas un début, une durée, une fin? Le non-est, parfois on l'appelle le grand un, ce qui n'a pas son contraire. C'est des questions qu'on se pose. C'est des questions qu'on se pose quand on aborde le chemin spirituel. On entend beaucoup parler de ce genre de choses. Et il n'y a pas, je pense pas qu'il soit intéressant de développer des croyances, mais de se poser des questions, ça très certainement. Et comment est-ce qu'on va savoir? Comment est-ce qu'on va savoir? Ben, on va savoir en expérimentant. Et expérimenter quoi? Et ben, pour moi, ce qu'il faut expérimenter, c'est l'inverse de, c'est la recherche de tout ce qui, c'est de voir s'il est possible. Ah, attendez, je vais essayer de me reprendre autrement. Le chemin qui m'interpelle le plus, en fait, c'est de pratiquer pour de plus en plus lâcher tout ce qui de moi a été construit. Tout ce qui de moi, dans le moment de ma méditation, je parle pendant ma méditation, tout ce qui de moi émerge si je ne le saisis pas. Si je ne m'y intéresse pas, si je ne le suis pas, si ça ne m'emporte pas, si peu à peu, alors ça, là, je voudrais pas trop empiéter sur les séances suivantes, mais on va voir beaucoup plus ça, la construction, comment les choses apparaissent en fait, et comment, dans certains moments de notre pratique, les choses n'apparaissent plus. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller peu à peu laisser le monde perceptible se dissoudre? Comme on a des expériences en méditation de moments où on perçoit de moins en moins de corps, de moins en moins de respiration, de moins en moins de pensées, de moins en moins de temps, de moins en moins de soi. On lâche, et si on lâche, si on lâche, et si on lâche, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette déconstruction qui laisse de la place? Tout ça, déjà parce que moi personnellement, parce que je trouve que c'est fun. Je trouve que c'est un truc vachement intéressant. C'est comme un jeu de recherche passionnant. Ça fait un peu comme les mathématiciens passionnés ou les physiciens passionnés. Voilà, là, il y a quelque chose de vraiment curieux à explorer et à découvrir. Mais aussi parce que ça libère. Parce que ça change l'identification. Parce que quand on se découvre existant sous des formes moins construites, et donc plus primitives, dans le sens de première, eh ben, on se ressent comme étant plus ça que ce qui a été construit, qui n'arrête pas de changer en plus. Parce que de quand j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça a pas mal changé quand même. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce qu'il y a une chose de moi qui n'a pas changé depuis ma naissance? Si cette chose de moi n'a pas changé, si quelque chose de moi n'a pas changé depuis ma naissance, alors ça, c'est plus moi que tout ce qui a changé. Donc dans ce que j'amène là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup. Il y a pour moi déjà des années, des années, des années de recherche, de pratique, d'interrogation, de lecture, d'écoute de discours. Et pour vous, ça vient impacter là où vous en êtes, sans que je sache en fait ce qui se passe. Je vous conseillerais en tout cas de prendre patience, de ne pas se jeter sur des conclusions hâtives, de ne pas se sentir frustré si on a l'impression qu'on a vraiment, vraiment pas compris grand-chose, ou même de se dire qu'est-ce que c'est ça, quel est le rapport avec moi et avec ce que je peux vivre dans mon quotidien et tout ça. Si tout ça n'est pas clair encore, c'est tout à fait OK. Peut-être ça plante des petites graines, peut-être aussi c'est une approche qui correspond pas à certains d'entre nous. Il y a d'autres approches de méditation. Oh oui, il y a plein d'autres approches de méditation, peut-être qui correspondent mieux. Ou en tout cas de ne pas développer une sensation de frustration ou de se sentir enseveli ou pas à la hauteur ou ce genre de choses. Parce qu'il y a vraiment beaucoup. Et je vais me donner le temps de revenir sur les mêmes choses en rajoutant aussi des détails et des liens dans les séances qui vont venir. C'est un peu le but. En fait, de ces cinq mois, c'est de nous amener collectivement quelque part à une perspective qui après vous conviendra ou pas, et chacun fait sa musique après. Mais au moins d'amener cette perspective qui vient beaucoup de cet enseignant dont je vous ai parlé déjà, Robert Baer, qui est décédé il y a un an et demi maintenant. Et qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours beaucoup, que j'avais eu la chance de rencontrer quelques fois, et qui est une herméneutique du bouddhisme, un décodage spécifique du bouddhisme, qui pour moi a un sens énorme, qui pour moi a un sens énorme, alors qu'il y a beaucoup de concepts qui n'avaient jamais trouvé leur place chez moi. Notamment le concept de lâcher prise, le concept même de désir et d'attachement et les problématiques qu'il peut y avoir. Ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi, toute cette approche. Et encore moins le non-soi, la vacuité, un peu. Mais là, sous cet angle que peu à peu j'essaye d'amener, sous cet angle, alors là, ça veut vraiment dire quelque chose d'énorme pour moi. D'énorme. Et de passionnant et de libérateur. Et c'est ça, en fait, que j'ai vraiment le désir de réussir à mettre en musique pour le transmettre. Voilà, mais donc, c'est beaucoup, beaucoup. Et si, les discours sont enregistrés aussi. S'il y a quelque chose qui a été dit et qui était intéressant ou qui a résonné, ça vaudra la peine de réécouter. Comme vous l'avez compris, il y a tout un aspect philosophique dans cette approche. La pensée, la philosophie, la manière de voir, la conception fait partie de la création et fait partie de la nécessité de cette approche. C'est complètement intégré. Dans cette approche, ce n'est pas possible de méditer juste de pleine conscience et de silence. Parce qu'on y infuse des manières de voir. Et du coup, ce qui est vu change. Merci pour votre écoute. C'était généreux et il y avait une belle qualité d'attention. Merci beaucoup.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.